peut-être fini. Ce beau chemin qui va quelque part, le sang séchera au nouvel an. Un peuple qui pleure ses courants, on dose si bien ses sentiments qu'on oublie la mort des enfants. Tous ces généraux aux cervelles d'acier ont jeté sur nous des linges rougis. Ils s'en sont allés jusqu'à l'assassiner cette libre terre où naissait la vie. Chile, Chile, ¿dónde estás? ¿Quién te mató, libertad? ¿Quién llorará más allá? Hasta que lleguen otras horas. N'oubliez pas le Chili qui saigne dans le lointain. Le Brésil, l'Argentine aussi. L'Espagne hier et nous peut-être demain. N'oubliez pas, n'oubliez pas. N'oublions pas Chile, Chile, Chile.
Two fathers. Bonjour à tous, bienvenue dans Patchwork en direct tous les vendredis de 16 à 17h. Cette fois, j'ai un petit peu de retard. On est venu à pied, on s'est fait plaisir. C'est un petit peu plus frais, mais je crois qu'il renonce encore de la chaleur demain. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2020. Et je vous souhaite d'excellentes vacances si vous en avez. The wind may blow and the sun may shine. It doesn't matter. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir en avant-première l'album de Tashka qui s'appelle Volcan, mais j'ai droit de passer un titre seulement parce que le clip est déjà sorti. Il s'appelle tout simplement Salope. Donc, c'est pas un gros mot, c'est le titre du morceau.
If you're looking for troubles, you came to the right place.
Et puis on aura peut-être des nouvelles de Bure en fin d'émission si le collègue arrive avant la fin de l'émission. Je pense qu'on aura peut-être des nouvelles de Bure avec tout ce qui se passe en collectivité, en autogestion. et ça de façon très gratuite et simple. Donc il y a des collectivités avec des fermes où on peut dormir, manger, boire et faire bien sûr du jardinage, faire des dons, il y en a qui donnent des vêtements, qui les trient, et donc ça se passe plutôt très bien depuis 3 ans et demi que ce témoin est sur Bure, donc avant dans les forêts et puis maintenant donc dans des collectivités, des fermes sur la ville de Bure. Donc c'est vers entre Nancy et Dijon. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un des endroits où on devrait enterrer des déchets nucléaires. Malheureusement, ils ne sont pas recyclables, même si l'intitulé le dit. En fait, c'est la prise en charge des déchets et ce n'est pas le fait qu'ils soient recyclables réellement. On ne peut rien faire de l'uranium appauvri. Donc il faut les stocker parce qu'il y a beaucoup de radioactivité. Et du coup, il faut d'énormes lieux et sous terre, on ne sait pas quelle est la durée de vie de ces lieux de stockage en bon état avant qu'il y ait peut-être de la corrosion et que ça atteigne les nappes phréatiques. Donc cela pose des problèmes sur les réflexions et puis les stockages, il en faut de plus en plus. Puis si tout le monde est en télétravail, je pense que les déchets vont devenir, vont se démultiplier. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tous ces sols qui seront pleins de déchets dangereux? Donc ce sont des questionnements pour l'avenir des générations futures sur prendre conscience de qu'il faut peut-être aussi faire des économies d'énergie. J'ai pas mis le bon titre parce que ce n'est pas numéroté, donc j'ai du mal compter. Allez, je vous laisse en compagnie de Tashkash cette fois, je pense que j'ai bien calé le CD.
Aujourd'hui c'est jeudi, c'est promotion en vitrine, à poil les petits prix, les dents blanches de Barbie te donnent envie de jouir de cette chance inouïe. Et puis quand tu la saisis, une petite voix te dit salope, 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 salope. Elle fait des exercices, un corps galbé dynamique. Tout le monde veut sa peau de mannequin au teint blanco. Si c'est elle qui monte sa cuisse, c'est bien elle qui pousse au vice. On sait bien que quand t'es nu, t'as plus le droit d'être pudique. Salope, 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 lop, lop, lop. Salope, 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 salope. Salope, 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 salope.
Voilà, c'était Tashka, donc découverte de son album qui sortira en octobre, l'album Volcan. Donc ce titre, bien sûr, provoque, qui aide à, permet de réfléchir un petit peu sur les préjugés. Donc Salope, c'est, y a également le clip qui est très très bien réalisé. Alors j'essaye de vous caler autre chose en même temps, si ça veut bien marcher. Ça marche. Alors, d'autres invités que j'ai eus il y a quelques temps dans Patchworld, il n'y a pas si longtemps, Odyssée et Oracle.
Un couteau de cuisine. Les enfants étaient en... Au loin veut sentir.
Voilà, c'est l'album Crocorama, pareil, qui sortira en octobre. Donc plusieurs inédits finalement cet été dans Patchworld. Donc c'est le groupe Odyssey and Oracle. L'album s'appelle Crocorama. Et là, je vous ai fait écouter le premier titre qui s'appelle Chercher Maman. C'est aussi le groupe de Fanny qui chante. Le groupe s'appelle Best of Bedlam. Donc ils sont venus présenter, Fanny et Guillaume, leurs deux albums. Là, c'est l'album Folly Untold qui est sorti en 2018. Et c'était le premier titre, Brambles of Dorland. Je vous propose de repasser sur le premier album là, qui va sortir en octobre. Leur duo, c'est Odyssey and Oracle. Et cette fois, c'est le deuxième titre qui s'appelle Les poupées mécaniques.
Thank you.
Silk Road's Invisible Woman. On continue avec le groupe The Oath. Ça s'écrit O-A-T-H. Voilà, c'était donc le groupe The OOATH. Pour ceux qui veulent taper sur internet, voir ce qu'ils ont fait d'autre, ils ont vraiment plusieurs albums à leur actif. Ils datent, je me souviens, le premier album. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Pierre, le chanteur et le créateur du groupe, où j'avais participé au clavier. Ça remonte à 99. Ils ont fait du chemin depuis avec ces musiciens. Et toujours très belle qualité d'image, de photo. Donc là, le titre qu'on vient d'entendre, c'est Crimson Flesh sur leur album Consequences. Donc ils ont plusieurs albums. Ils en ont peut-être 5, 6, 7. Et donc je vous invite à aller voir. Et cette fois, je laisse la parole à un témoin, un habitant de Bure. Voilà.
Ouais, salut. Du coup, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui se fait à Bure. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas du tout. Du coup, je vais revenir très rapidement sur ce qui se passe là-bas. Et puis après, je rentrerai un tout petit peu plus dans les détails. Donc, Bure, c'est un lieu dans le nord-est de la France. C'est pas très loin de Nancy. C'est dans le département de la Meuse. C'est un lieu qui a été choisi il y a 25 ans pour accueillir les déchets nucléaires à 500 mètres sous terre. Et du coup, y a des gens qui s'opposent à ça, parce que en soi, avoir des déchets nucléaires mis sous terre, c'est un peu mettre la poussière sous le tapis et se retrouver avec un héritage empoisonné pour des centaines de milliers d'années. La question des déchets nucléaires, elle remonte au début de l'industrie nucléaire, donc après 45, où les premières solutions qui avaient été trouvées, ça avait été d'y mettre dans l'océan. Donc ça s'est fait en Normandie, mais ça s'est fait aussi au large des côtes somaliennes. Et puis dans les années 70, cette pratique a été interdite. À ce moment-là, ils ont commencé à réfléchir à d'autres solutions, et notamment à la question de l'enfouissement. Dans les années 80, ils ont tenté en diverses régions en France d'implanter ce genre de projet, mais ça n'a pas pris. Et du coup, dans les années 90, ils sont arrivés avec un nouveau plan. C'est qu'ils ont, ils sont venus en Meuse, à Bure, en disant qu'ils allaient faire un laboratoire de recherche. Donc un laboratoire de recherche géologique pour étudier comment réagit le sous-sol, à 500 mètres sous terre, tout ça. Et en fait, ça a été un peu le cheval de Troie qui leur a permis de s'implanter. Il y a eu de la contestation, des gens qui disaient « Oui, mais si c'est de la recherche, forcément, il y aura les déchets derrière. » Eux, à l'époque, ils disaient « Non, c'est vraiment juste une recherche scientifique. Il n'y aura pas de déchets nucléaires à cet endroit-là. » Et ils ont construit leur laboratoire en 2000. Et dans la foulée, il y a une loi qui a dit que maintenant qu'il y avait un laboratoire de recherche sur place, ce serait l'endroit... idéal pour enfouir les déchets nucléaires. Donc au fur et à mesure, la population s'est résignée, parce qu'il y a des gens qui ont lutté, et s'est habituée à l'idée de l'implantation de ce projet. Faut dire que ça fait 25 ans qu'ils sont arrivés sur place. Le projet n'a pas encore démarré en lui-même, mis à part le laboratoire de recherche, mais il y a déjà 1 milliard d'euros de subventions qui ont été distribuées au département. C'est des subventions pour les mairies, c'est des subventions pour les associations, pour des particuliers, pour des entreprises. Et du coup, tout le monde se retrouve un peu dépendant. Et il y a toute la promesse d'emploi, de rayonnement économique, tout ça. Parce qu'il faut dire que c'est une région particulière et elle a été choisie sans doute pour ça. C'est qu'il y a peu de monde qui y habite. L'agriculture, c'est des grands champs de monoculture. Et l'industrie, c'était de l'industrie lourde qui s'est effondrée dans les années 70, 80, 90, où tout a fermé et était délocalisé. Donc c'est un terroir économiquement en difficulté, et du coup ça a été aussi un choix stratégique. Dans le fond, ce laboratoire de recherche n'était pas tant pour faire de la recherche géologique que pour faire une recherche plutôt sociologique, de voir comment faire accepter ça à la population. Et du coup, c'est passé par des financements, c'est passé par de la résignation. Et donc, si on a entendu parler de Bure un peu plus récemment, c'est parce que en 2016, l'ANDRA, donc l'Agence nationale de gestion de déchets radioactifs, a décidé de commencer les projets, les travaux, je veux dire, les travaux du projet qui s'appelle CIGEO, qui veut dire stockage géologique, tout ça. Et donc, ils ont essayé de commencer les travaux en s'asseyant totalement sur les autorisations nécessaires, tout ce qui est défrichement, études d'impact environnemental, permis de construire, et ils n'avaient rien de tout ça. Et ils ont commencé à faire des forages, à déboiser, à installer des clôtures, etc. Et du coup, il y a eu diverses manifestations successives à ce moment-là et qui ont donné lieu à une première occupation d'un bois qui s'appelle le bois Le Jus. Du coup, le bois Le Jus, il est à 2 km de Bure et 2 km du village de Mandran-Barrois, qui est un autre. C'est les deux villages qui vont être le plus touchés par le projet. Le laboratoire se trouve déjà entre ces deux villages et le bois se trouve aussi entre ces deux villages. Et c'est un endroit stratégique parce que à cet endroit-là, il y aurait les galeries qui seraient à l'aplomb à 500 mètres en dessous. Et du coup, il y aurait des puits de ventilation à cet endroit-là. Donc c'est vraiment un des lieux clés pour le projet. Et donc il y a eu une première occupation à l'été 2016. Qui a duré 3 semaines et qui a été expulsé à grand renfort de gendarmes. Et s'en est suivi une bataille juridique, médiatique et d'occupation de terrain, parce que quand c'était pas occupé par des opposants opposantes, c'était occupé par les flics. Finalement, après plusieurs revers juridiques et médiatiques et une grosse tension sur le terrain, le 15 août 2016, les flics ont dû se retirer parce qu'ils ne pouvaient pas défendre cet endroit qui était trop contesté d'un point de vue juridique. Et du coup, à cette occasion-là, il y a un mur qui avait été érigé autour de cette forêt, donc pour empêcher les opposantes de venir. Et ce mur a été abattu, ce qui donne un lieu à des très très belles images et un moment collectif fort, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait tomber un mur, même s'il y a plein de murs qu'on aimerait bien faire tomber. Et à partir de là a débuté la deuxième occupation, qui elle a duré 2 ans, a fait pas mal parler d'elle. On entendait Bure, le nouveau Notre-Dame-des-Landes, les zadistes, tout ça. Ça a attiré beaucoup de monde. À ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup d'énergie et l'été avait été victorieux face à l'Andra, et du coup il y avait un nouveau souffle même parmi des gens qui luttaient depuis plus longtemps. Il y avait aussi ce truc de enfin une victoire depuis tout ce temps-là. Si on avait été aussi fort sur le terrain à certaines époques, peut-être que tout ça serait pas fait. C'est un peu ce qui s'est dit. Et finalement, l'occupation de la forêt, elle a été expulsée 2 ans plus tard, donc en février 2018, cette fois à renfort de 500 gendarmes. Et du coup, depuis, à peu près simultanément, il y a eu une grosse vague de répression qui a suivi. Du coup, ça a été aussi bien une répression individuelle, c'est-à-dire plein de personnes qui sont vues arrêter et avoir des procès pour des motifs comme port d'armes ou outrage, rébellion, ce genre de choses. Et où la stratégie du procureur et du tribunal, c'était de mettre des interdictions de territoire, du coup, pour empêcher les gens de revenir sur place. Il y a eu aussi une répression, cette fois plus collective, puisque lors de différents moments de manifestation ou d'action, etc., il y a des personnes qui ont été ciblées par la justice comme ayant organisé ou participé à organiser ça, et du coup qui sont accusées d'association de malfaiteurs. Donc association de malfaiteurs, c'est un qualificatif qu'on utilise d'ordinaire plutôt dans le crime organisé. Et du coup, ça permet à la justice d'avoir des moyens assez grandioses, des possibilités de perquisition. Il y a eu énormément de perquisitions, de saisies de matériel. Ça permet pour les personnes soupçonnées de les mettre sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas encore eu leur procès, mais ont déjà des obligations ou des interdictions. Interdiction de territoire, interdiction de se voir entre elles, interdiction de quitter le territoire français, etc. Et du coup, c'est une grosse épée de Damoclès, alors que le procès n'est même pas passé. Du coup, c'est une forme de condamnation avant l'heure. Et du coup, cette répression a été dure. On commence à en voir quand même un peu le bout, parce que ça a été, depuis 2018, 2 années assez chargées, où on a senti aussi le changement de gouvernement avec Macron et une politique beaucoup plus dure. De la part du gouvernement qui refuse de revenir sur ce projet-là. Pour se faire une idée, ce projet, c'est, il est censé y avoir 250 km de galeries à 500 mètres sous terre. C'est le plus gros projet industriel européen. Le coût estimé, c'est 35 milliards d'euros. Enfin, il y a tout plein de chiffres totalement aberrants. Et c'est censé stocker les déchets les plus radioactifs qu'il y a actuellement en France. Et il y a des déchets qui seraient radioactifs encore pendant 200 000 ans, à peu près. Et du coup, se pose beaucoup de questions, dont la question de la mémoire, de comment transmettre ça dans le futur. Et en fait, on se rend compte que là, l'Andra, ils sont complètement à la ramasse. C'est des questions qui les dépassent totalement, parce qu'en fait, quand tu mets quelque chose sous terre pendant des milliers d'années, ben en fait, forcément, il y a des gens qui veulent aller creuser à cet endroit-là. Et même s'il y a des choses, même s'il y a des signaux dissuasifs, il y a qu'à voir les archéologues qui sont allés ouvrir des tombes égyptiennes alors qu'il y avait des signaux dissuasifs. Et il s'est écoulé seulement 3-4 000 ans, 5 000 ans avant que ça arrive. Et du coup, on se pose la question de centaines de millions de milliers d'années. C'est des échelles de temps qui nous dépassent d'un point de vue philosophique. Il y a aussi tout un tas de questions techniques, même si en soi, on peut se dire que ce projet, dans tous les cas, c'est un projet non désirable. Tel qu'il est fait, techniquement, il y a plein de problèmes qui ont été soulevés par des institutions qui, d'ordinaire, sont plutôt pro-nucléaire. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un casse-tête. Et ça fait des années qu'ils repoussent leur calendrier, entre autres à cause de l'opposition, ou grâce à l'opposition, mais aussi parce qu'ils sont complètement à la ramasse, ils planent à des kilomètres. Et c'est ce projet, au-delà d'une question de solution pour les déchets nucléaires, parce qu'ils sont là, etc., ce qui est un argumentaire qu'on entend beaucoup, c'est un peu une solution pour continuer l'industrie nucléaire à tout prix. L'industrie nucléaire, c'est pas qu'un choix énergétique. L'industrie nucléaire, c'est aussi un armement, et c'est une industrie de mort, en fait. Clairement, le nucléaire, c'est la figure de mort par excellence, invisible, mais tellement puissante. Et donc, quelque part, nous, on lutte pas que contre ce projet, on lutte contre le nucléaire et contre l'État qui a besoin de ce nucléaire, contre l'État en général. Et du coup, c'est un combat un peu frontal et un peu grandiose, mais aussi difficile. Et bah, le nucléaire, ça a tout plein d'autres défauts. C'est pour produire ça, il faut aller chercher de l'uranium souvent en Afrique ou en Asie. Et du coup, ça implique forcément des dimensions néocoloniales. Areva qui va exploiter l'uranium au Niger dans des conditions absolument horribles pour les gens qui bossent là-bas. Et du coup, la France qui protège ses intérêts avec son armée là-bas. Enfin, c'est vraiment quelque chose de merdique. Du côté de nous, ce qu'on fait en opposition à ça, c'est que, du coup, je disais, ça fait 25 ans que dans le coin, il y a des gens qui se bougent contre ce projet. Dans les dates un peu clés, en 2004, il y a des gens qui ont acheté une maison dans le village de Bure, qui s'appelle la maison de résistance à la poubelle nucléaire, et qui est une maison d'accueil, d'information, et un peu pour se retrouver, pour faire des choses ensemble. Et ce qui est super dans cette maison, c'est que ça fait déjà 15 ans qu'elle existe et qu'elle peut recevoir du monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que si vous avez envie de passer là-bas, envie de vous renseigner, envie de rencontrer des gens avec qui causer de ça ou d'autres sujets, c'est possible de venir à tout moment, et l'accueil est plutôt inconditionnel, et ça, c'est quelque chose de vraiment chouette. Il y a aussi d'autres lieux collectifs qui existent dans les environs. Et après... je comprends que ce soit intimidant de venir à un endroit comme ça, juste stocker et rentrer. Du coup, il y a aussi des événements qui sont autant de portes d'entrée possibles à cette lutte et des moyens de se rencontrer. Il y a eu des rassemblements féministes et antinucléaires qui ont ramené beaucoup de monde. On a fait des rencontres contre la prison, parce que je pense que le nucléaire et la prison, il y a vraiment des liens très ténue entre ces deux institutions. Et là, notamment, le prochain gros rendez-vous, il va se passer à la Maison de Résistance. Ce sera du 5 au 11 octobre à Bure. Et du coup, c'est une semaine antinucléaire. L'idée, c'est de parler de qu'est-ce qui a déjà été fait en termes de moyens, de pratiques de lutte, d'histoire de lutte, contre le nucléaire. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est un peu de tirer des leçons du passé, si on peut tirer des leçons. Hein. C'est un peu se faire une idée de ce qui a marché, dans quel contexte, et est-ce qu'on peut le reproduire. Et du coup, l'idée, c'est d'en ressortir plus intelligent à la fin de la semaine, de partager, d'apprendre des choses ensemble. Il y aura des projections, il y aura des discussions, il y aura des présentations de livres, il y aura des ateliers plus un peu concrets. Enfin, il y en aura pour tous les goûts. Et du coup, c'est possible de venir entre le 5 et le 11. C'est aussi possible de venir à n'importe quel moment, comme je disais tout à l'heure, à la maison de résistance à Bure. Voilà, c'était un panorama rapide en une dizaine de minutes. J'ai beaucoup parlé et on est sur la fin de l'émission, je me rends compte. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça ferait plaisir de vous voir. Bisous.
Merci, je peux confirmer, c'est un lieu accueillant pour y être allé en octobre. J'ai ramené d'ailleurs des boutures de piment, de thym. Voilà, ouais. ça pousse bien, de la menthe chlorophylle d'ailleurs. Je n'avais même pas remarqué qu'elle avait une odeur particulière. Donc voilà, il y a un vrai investissement, tous les cas, dans ces lieux, avec une belle âme de collectif qui fonctionne bien, une autogestion qui fonctionne bien. Ça, c'est aussi la preuve que ça fonctionne, parce que souvent on nous dit « mais non, ça ne marche pas ». Si, si, ça fonctionne. C'est juste la belle intelligence et la simplicité des gens qui fait que ça marche.
Mi buena aventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar, mi buena aventura, donde se aspira siempre la brisa pura.